Que vous soyez acteur du monde de l'EdTech ou simplement curieux de la transformation de l'éducation et de la formation, ou si vous souhaitez vous former à de nouvelles connaissances et compétences, ce podcast est fait pour vous. Nous allons continuer à vous éclairer sur ce monde en perpétuelle ébullition. Ce podcast vous est présenté par la Banque des Territoires. Pour que la transformation de l'éducation profite à toutes et à tous, la Banque des Territoires agit au service de l'intérêt général pour des territoires plus attractifs et plus inclusifs. La MGEN, acteur majeur de la protection sociale des professionnels de l'éducation et de la formation, MGEN entretient en permanence des liens avec le monde éducatif. C'est pour soutenir les initiatives qui mettent la technologie au service de ces professionnels que MGEN a créé les trophées MGEN EdTech. Et la MAIF, parce que le numérique façonne toujours plus le quotidien de chacun, la MAIF met à la disposition de tous des services pour mieux accompagner l'individu dans la transformation numérique de la société. Je suis Rémi Chal, directeur général d'EdTech France, l'association des entrepreneurs qui mettent la technologie au service de l'éducation et de la formation. Bienvenue dans ce numéro exceptionnel, comme tous les numéros de ce podcast web radio d'EdTech France, parce que nous sommes en direct du salon Educatech Educatis sur l'espace territoire apprenant de la Banque des Territoires, diffusé en streaming sur edtechfrance.fr et sur les sites web et réseaux sociaux de nos partenaires, la Banque des Territoires, la MGEN et la MAIF. Et pour interagir avec nous, trois hashtags, hashtag EdTech, hashtag Educatectis, hashtag Terre Apprenant. L'électronisme concerne un Français sur six. Comment réduire cette fracture numérique? Comment faire en sorte que les citoyens les plus éloignés des nouvelles technologies d'un point de vue culturel ou géographique puissent et osent les apprivoiser? Quelle politique pour mettre en œuvre le numérique et pour faire en sorte qu'il arrive dans toutes les écoles? Eh bien, nous allons en parler avec nos invités. Fabrice Badreau, responsable des partenariats d'image, du mécénat et du sponsoring de la MAIF. Bonjour Fabrice.
Bonjour Rémi.
Et Nicolas Turca, responsable éducation et inclusion numérique, justement, ça tombe bien, à la Banque des Territoires.
Bonjour.
J'ai une grosse pression parce que derrière moi, il y a des logos de tous nos partenaires. Alors, il y a la MGEN, mais il y a surtout un logo MAIF et puis un logo Banque des Territoires. Voilà. Mais ne croyez pas que je vais vous épargner, les gars.
Mais c'est des logos qui vont ensemble.
Eh oui, ouais. Parce
qu'on partage un certain nombre de choses et je pense que ça va être le sujet qu'on
vous
va avoir.
Vous partagez une couleur d'abord, qui est
très complémentaire.
Rouge.
Ouais.
Exactement. Alors, moi, je suis sociétaire MAIF, Fabrice.
Merci.
J'ai grandi dans une famille de profs aussi. Je suis resté fidèle à la MAIF. Pourquoi la MAIF s'implique-t-elle sur ce sujet en particulier, qui est celui du numérique et de l'inclusion?
Alors, en réalité, c'est vrai que la MAIF, depuis très longtemps, depuis presque son origine, met à la disposition du public, quel qu'il soit, des solutions éducatives, accessibles et gratuites à tous. Vous savez que le sujet de la prévention nous intéresse forcément en tant qu'assureur. Nous avons depuis de nombreuses années développé un certain nombre de solutions éducatives autour de la prévention routière, de la prévention sécurité domestique. Il nous paraissait tout à fait évident et naturel, avec l'émergence des nouveaux risques que sont potentiellement les risques numériques, d'apporter notre pierre à l'édifice et de s'installer en tant que marque un peu médiatrice, tiers de confiance numérique quelque part, capable, compte tenu de ses différentes expériences sur de nombreuses autres solutions éducatives, d'apporter une vraie valeur ajoutée, une vraie information, une vraie pédagogie auprès des citoyens et des individus, quels qu'ils soient, aussi bien des jeunes que des parents, que des seniors. Voilà, ça fait partie de notre ADN, d'être dans la transmission des savoirs et du partage de la connaissance. C'est une vraie volonté chez nous. On souhaite se positionner de plus en plus comme une entreprise à mission, dans le cadre de la loi Pacte, notamment, nouvelle loi Pacte, et l'impact des actions de communication institutionnelle et des actions institutionnelles de terrain de la MAIF doivent servir cet impact positif sur la société et sur l'environnement.
Ce qui est intéressant, c'est pas juste un discours, c'est qu'il y a une réalité derrière. Alors, il y a un truc avec les camions. Parce que c'est une mutuelle qui a été fondée par des instituteurs. Il n'y a pas de routiers, pas les sociétaires. Il y a deux camions. Alors, racontez-nous un peu le camion des mots et puis le MAIF Numérique Tour. Qu'est-ce que c'est?
Alors, parmi les solutions éducatives que j'évoquais tout à l'heure, on a une histoire avec les camions parce qu'il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, avec le groupe L'Express, nous avions monté le camion des mots, MOTS, qui déjà était une salle informatique mobile qui allait à la rencontre des classes et donc des élèves et des enseignants. Et pendant une petite heure, les élèves pouvait s'évaluer sur la maîtrise de la langue française. Il y avait un travail en classe, il y avait une note, ensuite une évaluation collective, et les meilleures classes étaient après invitées à une fête des mots à Paris. On a transformé au bout de 7-8 ans cette première génération de camions des mots en studio d'enregistrement mobile cinéma. D'accord. qui permettait justement aux jeunes de préparer en classe une scénette de 3 minutes en répartissant les rôles entre le scénariste, le maquilleur, les acteurs. Ouais. Et donc chaque élève dans la classe trouvait sa place, tout à fait. Et une fois qu'ils étaient dans le camion, pouvaient pendant 3 minutes faire une vidéo en direct qui était diffusée sur la plateforme de l'opération. Et puis on a eu aussi pendant 2 ans le camion C'est pas sorcier. Ouais. Le tour de force, c'était de l'avoir mis sur les routes de France parce que, aussi curieux que cela puisse paraître, ce camion n'existait pas. Il n'existait qu'en studio. Donc, avec le groupe France Télévisions, nous avions mis cette solution itinérante mobile éducative au service des plus jeunes. Et là, donc, nouvelle génération avec le MAIF Numérique Tour. Oui. Qui lui est une solution, on va dire, de sensibilisation et d'acculturation de tous les publics, puisque jusqu'à présent les solutions mobiles étaient plutôt destinées aux scolaires. Ouais. Désormais, on a souhaité ouvrir cette solution éducative itinérante à tous les publics, hein, comme je l'indiquais tout à l'heure. Et donc l'idée, c'est bien de faire prendre conscience au grand public, quel qu'il soit, des risques, mais également des opportunités du numérique. Les risques existent, oui. Mais c'est en ayant conscience de ces risques qu'on devient quelque part un acteur responsable des usages numériques et pas simplement un consommateur passif. Et ce qui nous importe, nous, dans l'ensemble des solutions que nous mettons en place, c'est pas que du discours, hein, c'est une vraie réalité parce qu'on a plein d'actions qui vont dans ce sens-là. C'est comment toutes les actions permettent à chaque citoyen de reprendre en main un peu son identité numérique, oui. Reprendre en main, cultiver son esprit critique pour être dans la société actuelle un vrai individu, un vrai citoyen, éclairé, averti et plus responsable in fine. Oui.
Et concrètement, il y a quoi dans ce camion? Alors, c'est gros, non? C'est un semi-remorque, quoi.
C'est un 38 tonnes qui, lorsqu'il est déplié, fait 60 mètres carrés avec un certain nombre d'équipements multimédia, numériques, innovants, qui sont des sols et des murs interactifs, des grandes tablettes tactiles, des plus petites, un robot Nao que beaucoup connaissent aujourd'hui, des M-bots, bien évidemment, et des microscopes électroniques également. D'accord. Et l'idée, c'est pendant les journées scolaires, hein, puisque le camion...
C'est plutôt à destination des écoles?
Alors, 2 jours sur 3, on va dire. D'accord. Hein, le camion circule 6 jours sur 7 dans la semaine.
Ouais.
En général, c'est 4 jours scolaires et 2 jours grand public.
D'accord.
Dans la configuration scolaire, l'enseignant vient avec sa classe pendant 1 heure. Les élèves travaillent autour de 5 ateliers pédagogiques éducatifs différents. En fonction d'un thème retenu préalablement par l'enseignant, ou bien l'équipe de coach experts qui se trouve en permanence dans le camion, un coach plus un administrateur, pousse un certain nombre de sujets qui peuvent intéresser la classe directement. Et donc pendant 1 heure, les élèves passent d'atelier en atelier pour faire du coding, faire de la programmation, découvrir le monde vivant avec le fameux microscope électronique que j'évoquais tout à l'heure, faire des quiz en live à partir de ressources numériques mises en ligne par différents acteurs, que ce soit le ministère de l'Éducation nationale qui est partenaire de l'opération, au même titre que la Banque des Territoires, bien évidemment. Et l'idée, c'est bien de faire passer un beau moment à la fois aux profs et aux élèves pour qu'ils apprennent au mieux comment appréhender ces nouveaux outils numériques. D'accord. Même s'ils ne les ont pas forcément dans leur classe, on leur apporte justement avec ce camion qui va à l'encontre.
Est-ce que c'est le travail du mutuel de le faire? Ce n'est pas le travail de l'institution plutôt?
Alors justement, tout à l'heure j'évoquais l'entreprise à mission, l'entreprise à impact. Nous souhaitons aller au-delà de notre métier d'assureur. Nous pensons que les sociétés, les décideurs publics ont une responsabilité à jouer sur un certain nombre de sujets, qu'ils soient sociaux, écologiques, économiques. L'entreprise à mission que la MAIF souhaite être demain veut être au service des citoyens et des individus, quels qu'ils soient, dans une relation qui n'est pas du tout marchande. On est vraiment sur une solution non marchande, comme on dit chez nous. Et l'idée, c'est bien de permettre à chacun de mieux comprendre le monde dans lequel il vit, notamment le monde numérique, pour lui donner les clés d'être un acteur responsable de ce monde numérique, voilà, et pas un consommateur passif, comme je l'indiquais tout à l'heure. Donc voilà, c'est la volonté, en tous les cas, d'être dans ce partage de la connaissance, de la transmission des savoirs, pour permettre à chacun de mieux grandir et de quelque part de participer au mieux commun et au bien commun.
Alors Nicolas, la Banque des Territoires est partenaire. Donc... Toi-même, il t'arrive de conduire le camion avec un débardeur ou pas du tout?
Non. Alors, je conduis plusieurs fois le camion avec un débardeur, notamment dans les petits endroits comme à Ludovia, en Ariège, où parfois il s'arrête. Il s'arrête ce camion dans des territoires qui sont souvent éloignés du numérique, dans lesquels ce n'est pas naturel, ce n'est pas les grandes métropoles, et c'est la raison pour laquelle
on
s'est intéressé.
Quand on dit éloigné du numérique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas la 4G, il n'y a pas Internet, ou c'est un petit peu plus complexe que ça? C'est plutôt un obstacle aussi culturel?
Ah, c'est une réponse de Normand, c'est un peu de tout ça, quoi, ouais. En fait. Ouais. Donc c'est, y a pas de 4G, y a pas de THD, y a de l'électricité, hein, je te rassure. par contre, y a des usages, souvent, y a des enseignants qui ont leurs propres usages et qui développent des usages aujourd'hui sur le terrain, qui sont pas forcément connus, mais y en a peut-être pas assez aussi. Et là, le sujet qui est important dans notre histoire du Maïf Numérique Tour, c'est le sujet de donner des capacités supplémentaires. Oui. C'est des ateliers concrets, je pense à Medata et moi, mais tu en parleras peut-être mieux que moi, Fabrice, mais c'est le sujet de donner des capacités, oui, à comprendre le monde numérique dans lequel on est. Oui. J'insisterai jamais assez. Il y a une étude qui vient de sortir là, il y a quelques semaines de ça, eSILS 2018, sur plus d'une douzaine de pays. Il y a 2% des élèves d'une classe de 5e, d'une tranche d'âge vers les 5e, qui aujourd'hui comprennent l'objet numérique, oui, auquel ils font face.
2%.
2%.
Ça veut dire qu'il y en a 98% qui ne le comprennent pas.
Oui, ils ne savent pas d'où ça vient, ouais, c'est pas grave. Donc, ils sont soumis au sujet des fake news, qui sont soumis, ouais, à tous ces sujets-là, derrière des deepfakes, de tous ces
sujets. Ça déconstruit le mythe des digital natives.
Mais ça déconstruit complètement le mythe des digital natives. Et d'ailleurs, dans les 13-14 millions de fracturés aujourd'hui, des naufragés du numérique, il y a autant des personnes âgées que des jeunes en réalité. Et c'est pour ça que le sujet de l'inclusion numérique, il touche aussi l'école. Il touche aussi d'ailleurs les enseignants. Donc on est sur un sujet global, sociétal. Voilà.
Et dans ce camion, il y a aussi des seniors qui peuvent venir ?
Alors bien évidemment, il est ouvert au grand public, les seniors bien sûr. Ouais. Par exemple, on propose aux seniors qui viennent dans le cadre d'une association informatique du coin, hein, ouais, de se former par exemple à comment créer une messagerie, comment créer, ouais, pourquoi pas un blog, comment communiquer avec Skype. Enfin, en tout cas, c'est leur apprendre les basiques, ouais, qui les permettent véritablement d'être connectés aux, ouais, autres sans appréhension. Parce que l'intérêt de cette opération, c'est véritablement de gommer le côté anxiogène des nouvelles, ouais, technologies. Je pense qu'il y a certaines personnes, une grande partie de la population, qui peut en avoir peur, déjà qu'il n'y a pas accès, tout simplement, d'un point de vue équipement matériel. Donc nous, on leur apporte quelque part, pendant 3 jours, quand on reste dans une commune, quelle que soit la taille, ou dans un quartier, ces équipements pour les leur faire découvrir et leur donner les premières clés de compréhension, de ressources en ligne, d'outils, pour qu'ils puissent eux-mêmes, lorsqu'ils vont rentrer à la maison, on met le pied à l'étrier, en fait, pour gommer ce côté anxiogène. On fait effectivement, comme l'indiquait tout à l'heure Nicolas, beaucoup d'acculturation à la protection des données personnelles, ouais, avec une plateforme, ouais, Medata et moi, qui fera l'objet d'un podcast, ouais, hein, si j'ai bien compris.
On en parlera demain, effectivement.
C'est vrai qu'on considère qu'aujourd'hui, la singularité de ce dispositif, qui est assez unique en France, hein, même s'il y a d'autres solutions mobiles qui existent, mais qui sont beaucoup plus pointu, enfin, sur un seul sujet, c'est véritablement de répondre à chaque besoin. Chaque personne qui monte dans le camion peut avoir une demande très spécifique. Et la capacité de notre équipe de coach expert d'administrateur, c'est bien de s'adapter aux attentes du public qui vient nous rencontrer pour répondre à ses besoins en premier. On ne répond pas à tous les besoins, nous ne sommes pas organisme de formation.
Oui, bien sûr. Voilà, et puis vous êtes là que dans 3 jours, vous n'êtes pas là, voilà, toute l'année, bien sûr.
Tout à fait.
Est-ce qu'il y a des relais d'ailleurs le reste de l'année? Parce que si le camion vient, il sensibilise, mais une fois qu'il est parti, quand on a besoin d'utiliser le numérique, oui, pour déclarer ses impôts,
oui,
pour,
tout à fait.
Comment ça se passe après?
Alors justement, c'est un élément sur lequel on a sans doute à progresser, oui, dans ces prochains mois, et on va sans doute travailler bien sûr avec la Banque des Territoires pour trouver des solutions. C'est comment, après le passage du camion, on arrive à mettre en lien les acteurs numériques locaux, oui, avec un public qui a des attentes, hein, pour pouvoir se dire comment je fais pour accéder à mes droits en ligne, comment je fais pour accéder tout simplement à du matériel informatique, oui, près de chez moi pour faire ces démarches en ligne, et les mettre en relation avec les acteurs identifiés au niveau du local pour permettre de faire vivre cet écosystème, hein, de publics qui vont pouvoir utiliser le numérique pour vivre normalement dans une société, oui, où le numérique est subi aujourd'hui, oui, puisque, oui, vraiment vécu comme une facilité, alors que ça devrait être le cas. Le numérique n'est qu'un moyen, n'est qu'un support, n'est pas une fin en soi. C'est comme tout. Vous pouvez avoir les moyens entre les mains, mais l'important, c'est de savoir ce que vous voulez en faire, quoi. Et donc là, à partir de là, l'idée, c'est de considérer le numérique comme un nouveau créateur de liens sociaux. C'est ça qui nous importe avec cette opération. Oui. Et je ne l'ai pas dit, mais c'est très important. Vous avez le camion qui se déploie, bien évidemment, mais les mercredis et les samedis, nous avons mis en place un village numérique à côté du camion.
D'accord.
Village dans lequel nous apportons 2 ou 3 ateliers qui sont déjà préparés, qui sont autour du coding, autour de l'expérience, oui, de réalité virtuelle, oui, Medata et moi, donc protection des données personnelles. mais on permet à la mairie, aux acteurs locaux du numérique, de venir présenter leurs initiatives. Ça peut être une mairie qui a créé sa plateforme digitale, ouais, ou une application pour favoriser le mieux vivre des citoyens de la ville. Ça peut être aussi des associations d'éducation populaire qui ont créé, ouais, des actions autour du digital et du numérique, des sociétés, des start-up. Et donc on a, dès le début, souhaité que ce village numérique soit un vrai carrefour de rencontre des acteurs locaux du digital. Et ça marche plutôt bien. Ouais. On est content parce que lorsqu'on arrive, on crée l'événement dans la ville où on s'intègre à une programmation existante. Mais dans tous les cas, par rapport à votre question, l'objectif, il est rempli quand on arrive à avoir un vrai village numérique bien dense, puisque les acteurs qui fonctionnent, malheureusement, c'est un peu culturel en France, en silo, ont la possibilité véritablement d'échanger, de se rencontrer et peut-être de se raconter des histoires, de vivre des histoires ensemble après le passage du camion.
Oui. C'est gratuit, ils ont rentré un
peu. Alors, ouais, c'est gratuit pour le grand public. Ouais. Les mairies qui décident de le faire venir, ça coûte 1 000 euros par jour, ouais, puisqu'il y a des frais techniques, des frais de ressources humaines qui sont importants, bien évidemment. Mais c'est un investissement pour la Maïf, mais ce n'est pas du tout une opération commerciale, c'est une opération, ouais, moi, je dis d'intérêt général, quoi, quasiment.
Et c'est aussi une opération pour la Banque des Territoires, parce que financer en partie ce dispositif.
Oui, on finance en effet en partie le dispositif et c'est quelque chose d'important pour nous. En effet, on va travailler sur la façon de faire évoluer le dispositif dans les prochains temps. Parce que sur le numérique inclusif, on a aussi d'autres engagements.
Oui.
Et on travaille actuellement sur la logique de lieu, d'intelligence territoriale, oui, sur la façon de construire des choses dans les territoires pour les territoires. Tu veux que j'en dise un mot ?
Oui, bien sûr. Ouais. mais Nicolas, tu peux faire les questions et les réponses.
Oui,
je sais que tu peux le faire.
Mais je sais que je peux.
Alors,
faire
est-ce que tu peux nous en dire un mot, Nicolas ?
Alors, je peux te dire un mot, si tu veux. Non, c'est important pour nous et ça s'inscrit dans un dispositif global. La première chose, c'est l'intelligence territoriale et c'est le premier axe de travail. Et ça, c'est les hubs pour un numérique inclusif qui sont des têtes de réseau qui viennent accompagner les projets territoriaux. Les projets, souvent, ils sont seuls sur le territoire, comme je le disais. Il y a des initiatives à droite, à gauche. Et par exemple, le Maïf Numérique Tour s'est arrêté à Étampes. Auprès d'une maison de service au public, et c'était l'archétype on essaye d'hybrider les systèmes et donner de l'intelligence en commun pour pouvoir justement agir et élargir les effets d'un dispositif. Nous, par exemple, sur les maisons de service au public, on est impliqués dans l'animation et c'est des lieux dans lesquels tu peux trouver de l'aide sur le numérique, sur les services publics qui se dématérialisent aujourd'hui à vitesse grand V. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi les lieux, comme je le disais. On va déployer des lieux avec le groupe La Poste, mais aussi, en général, on va animer un certain nombre de lieux France Service. C'est la promesse du président de la République de sortir des lieux de terre sur les services publics pour faire face, là aussi, à la démat.
C'est qu'à la fois, on dématérialise les services publics, mais on crée des lieux, on rematérialise,
du lien humain. Tout à fait. On recrée du lien, et c'est bien tout le sens, d'ailleurs, du département dans lequel je travaille, qui est un département qui s'appelle cohésion sociale et territoriale. Ouais. C'est comment tu gardes cette cohésion, comment tu gardes ce lien en fait à une échelle, et que ça soit par rapport au numérique, par rapport à la transition écologique, mais par rapport aux services publics aussi. Parce qu'aujourd'hui, les gens, parfois, ils n'y comprennent rien. Et il faut de la simplicité. Oui, et c'est tout le sujet de je cherche à changer mes papiers, mais en fait, je vais à la préfecture pour la carte grise, ça ne marche plus. Où est-ce que je vais ? Et j'y comprends rien sur Internet. Parce que ça, c'est très important. Oui. C'est je n'y comprends rien sur Internet. Et enfin, c'est une mécanique, c'est les passes numériques. C'est aussi un engagement gouvernemental. C'est une logique de chèque restaurant qui aujourd'hui est distribuée par des opérateurs publics ou des entreprises qui souhaitent rediriger les gens vers les lieux qualifiés pour se faire accompagner, pour se faire former. Voilà. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, je ne sais pas si vous le savez ou si tu le sais, si tu as des personnes âgées dans ta famille, mais aujourd'hui, les chèques CESU sont complètement dématérialisés. Oui. Il y a un grand nombre, depuis l'été dernier, il y a un grand nombre de Français qui font face aujourd'hui au site web pour acheter des chèques CESU. Les chèques CESU, c'est des aides à la personne, c'est des aides ménagères, c'est des choses, c'est une réalité, c'est des choses essentielles pour des personnes âgées. Bah, comment est-ce que ces gens-là font ? Et ben, ces gens-là, actuellement, ils sont en train de se ruer dans des ateliers, dans des espaces publics numériques, dans des maisons de services au public, dans des tiers-lieux pour se faire accompagner et se faire aider. Voilà.
Ça va trop vite, ce mouvement. Parce que des révolutions, il y en a eu d'autres, mais c'est vrai qu'avec le numérique, le temps s'accélère. Est-ce que c'est C'est ça qui fait qu'on a le risque de laisser des gens sur le bord de la route.
Mais on a le risque de laisser des gens, on a le risque de laisser aujourd'hui 13 millions de personnes sur le bord de la route. Ouais. Hein. Donc sur les 13 millions, tu en as 6 quasiment qui aujourd'hui, 6,5 qui aujourd'hui n'ont pas accès à Internet par manque d'équipement, ouais, ou par manque de, ouais, connectivité. Puis tu as 6 qui a renoncé littéralement, ouais, à Internet. C'est-à-dire que c'est trop compliqué. Je n'y comprends rien, l'interface elle est trop complexe, c'est la question de l'expérience utilisateur, ouais, quasiment, quoi. Et la complexification de ces interfaces. Mmh. Donc, et des enseignants ont renoncé, hein, pour un certain nombre d'entre eux, à un certain nombre, ouais, d'outils de vie scolaire, de choses comme ça, pour aller vers des plateformes. C'est le succès d'ailleurs des GAFA dans nos sujets éducatifs. Et ça, c'est quelque chose de très important. Donc ce n'est pas une question de vitesse, c'est une question d'urgence. Mmh. J'insiste, mais dans les maisons de services au public, nous n'accompagnons que entre 400 et 500 000 personnes par an. Il y a 13 millions, hein, j'ai dit, oui, tout à l'heure. Oui. Voilà. L'enjeu, il est gigantesque. Oui.
C'est vrai que, excusez-moi, il me semble que le temps du progrès technologique ne va pas toujours de pair avec l'appropriation qu'on peut se faire de, oui, ce progrès en tant qu'individu. Et je pense qu'il faut laisser un petit peu de temps au temps, ne pas être forcément dans une urgence à tout craint. C'est un sujet qui s'impose quand même à nous, cette explosion du numérique, hein, depuis peu de temps en fait, même, oui, si Internet existe depuis très longtemps. On est de plus en plus dans l'instantané, dans la pression du moment, dans le fait qu'il va falloir trouver des réponses rapides. Mais le numérique aujourd'hui, c'est un sujet tellement complexe qu'il embarque beaucoup d'acteurs, oui, de terrain, qu'ils soient publics ou privés, et qu'il va falloir du temps pour structurer un peu les réponses qu'on peut apporter, les bonnes réponses qu'on peut apporter aux publics qui sont en retard de connexion quelque part, dans tous les sens du terme.
Nicolas ?
Alors j'ajoute juste un dernier point, il y a un dernier exemple. Parce qu'à chaque fois, on me dit le numérique inclusif ou l'inclusion numérique ou les services publics, c'est quelque chose d'éloigné. C'est faux, de l'éducation. C'est faux, et c'est vrai à la fois. C'est vrai parce que c'est les sujets de médiation, c'est les travailleurs sociaux. Donc c'est un prisme particulier. Mais c'est aussi le premier service public en volume. D'accord ? Faut toujours s'en souvenir. Il y avait une ministre à une époque qui parlait en effet du premier service avec une dimension sentimentale. C'est-à-dire, oui, vous déposez votre enfant le matin, vous récupérez le soir. C'est quelque chose de très important. Et vous êtes tous les jours en interface avec des logiciels de notes, avec des logiciels d'espace de vie scolaire qui aujourd'hui vous assomment d'informations sur l'école, sur la vie de votre enfant et sur ces choses-là. C'est fondamental. Aujourd'hui, le pass numérique permet par exemple d'identifier, et il y a des enseignants en Côte d'Or, il y a des expérimentations qui ont été menées en Côte d'Or sur le fait qu'on s'apercevait en fait que les décrocheurs scolaires étaient ceux dont les parents ne regardait jamais en fait les logiciels de notes ou les logiciels de tiens il faut faire ça à l'école, de cahier de texte en fait, l'équivalent de cahier de texte. C'est intéressant, mais le proviseur, l'enseignant identifiait ses parents, leur donnait un pass numérique pour aller se former et les faire de la remédiation finalement de politique publique avec ces gens qui finalement pour les réinsérer. Et donc finalement cette stratégie numérique inclusive avec ce pass numérique s'applique aussi à l'éducation nationale et permet de rétablir l'égalité des chances
qui concerne
aussi,
évidemment
contribuer.
Les enfants à l'avenir du pays, mais qui concerne de fait leurs parents et l'enfant peut former ses parents aussi d'une certaine manière.
Aussi, complètement.
Alors c'est vrai que quand on parle du public un peu déconnecté du numérique, il faut dire que les enseignants sont parfois un peu désemparés. Ils ont envie sans doute d'aller vers le développement, l'appropriation de ces nouveaux outils technologiques et leur appropriation des fins pédagogiques. Et aujourd'hui, la formation initiale, elle est quand même assez faible au niveau de l'éducation nationale. Ici, nous sommes à Educatec Educatis. Là-haut, c'est le salon d'éducation. C'est la raison pour laquelle nous, on a décidé d'aller carrément dans les INSP, qui sont les ex-SP, pour aller faire de la formation des enseignants aux outils numériques à partir des équipements qui sont dans le camion. On considère qu'on a aussi un rôle à jouer puisque depuis toujours la MAIF accompagne les enseignants et on s'est dit qu'il y avait peut-être un champ à couvrir dans cette formation initiale des enseignants mais qui de fait devrait s'accompagner de formation continue tout au long de la vie. On n'est plus sur le domaine de l'éducation, on est sur le thème de la formation tout au long de la vie qui, quel que soit, est indispensable pour évoluer dans une société qui est en perpétuelle évolution, quoi.
J'avais été très surpris, je pensais naïvement que c'était les jeunes profs qui étaient les plus enclins à utiliser les outils numériques. Et en fait, on m'a dit, mais non, les jeunes profs, ils ont un premier enjeu qui est de tenir leur classe. Alors, moi, j'ai été prof, et c'est vrai, alors j'avais des grands élèves, donc c'était plus simple. Et finalement, les enseignants les plus moteurs sont ceux qui ont 35, 40 ans, qui ont déjà une première partie de carrière et qui s'intéressent à ces outils, qui ont déjà des pratiques pédagogiques, qui veulent enrichir, etc. Et je suis persuadé, évidemment, que l'enjeu de la formation, il est absolument essentiel.
Mais c'est au-delà de l'usage. J'insiste, c'est pas parce qu'ils sont jeunes. D'ailleurs, le grand drame des classes d'âge, on va dire post-digital native ou pré-digital native, j'en sais rien comment on les appelle là, ceux qui ont 18, 25, c'est qu'ils ont été enfermés dans les applications.
Oui.
Non, mais c'est un vrai sujet, hein, oui. L'enfermement dans l'application et dans l'apps mobile.
Oui.
Je vous incite à regarder le complément d'enquête là, sur l'électronisme. C'est fabuleux, hein. Il y a le témoignage d'un jeune qui vous explique qu'il lui s'est servi en effet de tous les réseaux sociaux, de toutes les plateformes possibles et imaginables, sur lequel il n'y a pas besoin de mode d'emploi, hein, je vous rassure. Et ben pour rentrer hein, dessus, pour les engager, c'est même le principe même des UX designers de ces applications. Et la question en fait, elle n'est pas tant là-dessus que sur la question de l'humanité numérique, des humanités numériques. Et donc c'est la question des compétences numériques derrière des enfants. C'est la question, c'est toutes ces questions-là. Mais c'est pas la question du code ou de voilà. Ce matin, je pense que Claude Thérosier voilà, a évoqué ces sujets-là. C'est pas seulement cette question-là. C'est aussi avoir un regard critique sur le monde numérique qui nous entoure. Et ça, c'est fondamental. Au-delà de la découverte d'un robot Nao, voilà, c'est la question de qu'est-ce que ça veut dire la robotique, qu'est-ce que ça veut dire l'intelligence artificielle au-dessus de moi, voilà.
Comment je le maîtrise?
C'est ce que disait Claude. Comment je dépasse? Parce qu'il y a un paradoxe un paradoxe fondamental sur le numérique. C'est capable de vous prendre et de vous mettre sous une intelligence artificielle. Vous avez un certain nombre aujourd'hui de livreurs qui sont sous une intelligence artificielle, quasiment. Sous un algorithme. Et puis, en même temps, le numérique, c'est le premier et probablement peut-être dernier ascenseur social encore existant.
Oui.
Les écoles de code, Simplon, on est investisseur chez Simplon, c'est quelque chose de très important. C'est un ascenseur social. Aujourd'hui, c'est une réalité. On a besoin de codeurs et vous pouvez être décrocheur et 42 l'a montré. Voilà, c'est des choses importantes.
Mais le problème aujourd'hui de l'inclusion et de la fracture numérique, c'est que bien souvent, on rajoute une double peine. C'est-à-dire qu'on a déjà des publics qui sont en difficulté sociale, culturelle, éducative. Et en plus, on leur impose du numérique.
Qui les éloigne encore plus.
Il y a une double fracture, en fait, qui est liée à cette émergence du numérique et le fait qu'on n'a pas forcément les équipements, les outils, la connexion qui va bien pour y arriver. Même si on a tous un smartphone, ça ne veut pas dire pour autant qu'on sait faire une lettre et un CV sur un outil bureautique simple, Word ou utiliser Excel. Donc c'est aussi ça, la vie professionnelle, on est attendu sur ces sujets-là. On n'est pas attendu que sur le fait de maîtriser des outils ou des applications sur des téléphones portables. Donc il y a un vrai enjeu d'accompagnement, bien évidemment. Mais qui concerne pour moi tous les publics. On est un petit peu tous responsables, tous on peut être acteurs d'aller sur un mieux commun numérique. Mais il faudra du temps, comme je l'indiquais tout à l'heure, puisque c'est une mise en réseau d'acteurs très diversifiés. C'est indispensable de le faire parce qu'on sait bien que si c'est bien utilisé, le numérique peut être justement cet ascenseur qui peut permettre à certaines catégories de population de mieux être intégré à la société, bien évidemment.
Je suis maire d'une commune rurale, je veux que le camion vienne chez moi, comment je fais?
Bah, déjà, je vais vous donner ma carte. Et puis... Non, mais il fait une tournée de 11 mois sur toute l'année,
d'accord.
Effectivement. On visite toutes les régions de France. Depuis 2 ans maintenant que le dispositif existe, nous avons accueilli 100 000 visiteurs utilisateurs du dispositif. Nous avons visité 140 villes-étapes de toute taille, hein, aussi bien des petites communes de 700 habitants que des communautés de communes, que des quartiers. On va aussi de plus en plus, et c'est notre souhait, d'aller sur des publics sociaux, notamment les UDAF, les caisses d'allocation familiale, qui développent des vrais programmes d'éducation autour du numérique, autour de la parentalité. Je n'ai pas évoqué Quant, qui est partenaire de l'opération et qui nous a mis à disposition dans le camion un atelier autour de la parentalité numérique, parce qu'on voit bien que le sujet numérique peut être un sujet de friction dans les familles. Mais la parentalité numérique,
qui un enfant, un ado, passe au moins 2 heures par week-end à essayer de lui arracher des mains smartphone ou la tablette qu'on a nous-mêmes mis dans ses mains. C'est ça qui est vicieux. Hein. C'est-à-dire qu'on donne un truc à un enfant et puis immédiatement, une fois qu'on lui a donné, on lui retire. Arrête, ça suffit.
Après, tout dépend ce qu'il en fait et tout dépend ce qu'il a comme activité périphérique. Tout est dans la modération, c'est comme beaucoup de choses. Je pense qu'il faut que les enfants soient connectés, bien sûr, à des fins ludiques, mais à des fins éducatives, mais aient en parallèle des activités physiques, sportives, sociales, qui permet à chaque individu de trouver un équilibre dans la société et vis-à-vis des autres, tout simplement.
Oui, parce que c'est pas seulement la faute de l'objet numérique, c'est aussi une question d'éducation.
Bien sûr. Oui, mais on a eu les mêmes débats quand j'avais 12 ans avec la télé, quoi. Voilà.
Exactement.
Et c'était déjà un écran, quoi. Et aujourd'hui, on marquera qu'on ne parle plus du tout de la télé. C'est fini. Parce que les gamins ne la regardent plus. Donc, c'est plus cet écran qui pose problème. En tout cas, merci à tous les deux. C'était passionnant.
Merci.
J'ai hâte de visiter le camion. Voilà.
Vous êtes cordialement invité. Alors, en ce moment, il est à Bordère sur l'Échier dans le 65.
Ouais.
Après, nous allons du côté de Boé dans le 47, de D'accord. mémoire. Et puis Blois et Lille-Adam dans le 95.
Ouais.
Et nous finirons sans doute l'année par la visite de l'INSP de, si je ne me trompe pas, de Saint-Brieuc.
Génial. Et est-ce que vous, à chaque fois, vous rapportez des spécialités locales? Parce qu'à la fin, il peut y avoir le grand banquet du Maïf Numérique Tour. Ça peut être un truc assez fou quand même.
Alors, si je suivais le camion sur toutes les étapes, effectivement, je risquerais de prendre du poids.
Mais... Non, vous êtes svelte et lancé. Quelle ligne, merci. Quelle ligne, Fabrice. Bien, merci beaucoup à tous. C'était passionnant encore une
merci.
Fois.
Merci. Merci à
Nicolas.
Toi.
Merci beaucoup,
Fabrice.
Rémi.
Merci conducteurs de camion, à ceux qui les animent et à ceux qui les visitent. Merci au public. De plus en plus en délire. C'est carrément incroyable. Est-ce que vous êtes chaud, Lucatec?
Ouais,
on dirait un EHPAD, là. Bon, alors, c'est la fête de fin d'année à l'EHPAD.
Nous allons rencontrer les EHPAD aussi. Les
ah,
faire. Oh,
super. Bien, ben, merci en tout cas. C'était très, très intéressant et on aura plaisir à le réécouter parce que c'est en streaming, mais c'est aussi en podcast très vite cette émission. Nous sommes toujours en direct sur le stand Territoire Apprenant de la Banque des Territoires avec la MAIF et avec la MGEN. On continue avec un autre talk. À très bientôt.
Que vous soyez acteur du monde de l'EdTech ou simplement curieux de la transformation de l'éducation et de la formation, ou si vous souhaitez vous former à de nouvelles connaissances et compétences, ce podcast est fait pour vous. Nous allons continuer à vous éclairer sur ce monde en perpétuelle ébullition. Si vous voulez nous suivre et nous soutenir, abonnez-vous au podcast EdTech France, disponible sur l'ensemble des plateformes d'écoute. N'hésitez pas à le noter, 5 étoiles, et en parler autour de vous. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux. Merci à Maxime Maton pour la production de ce podcast et à notre journaliste Natacha Lefauconnier pour la préparation des interviews.